de suite le journal de Claire Flauchel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. La mort de Vincent Lambert est médicalement irréversible d'après l'avocat des parents. Ils se résignent et ne déposeront plus de recours pour le maintien en vie de leur fils en état végétatif.
Le grand oral des candidats à la candidature à la mairie de Paris, c'est aujourd'hui discussion au sein de La République En Marche.
Ils ne sont plus que trois, Benjamin Griveaux, Cédric Villani et Hugues Rançon. Mais on a l'impression qu'il s'agit plus d'un duel, nous dira Stéphane Robert. Un retournement de situation à Hong Kong dans la nuit. Le projet de loi contesté depuis plus d'un mois dans la rue est mort, annoncent les autorités. Nous ferons le point. Et puis son objectif, c'est de calmer le jeu avec l'Iran. L'Élysée envoie pendant 2 jours son conseiller diplomatique à Téhéran. Hier soir, Emmanuel Macron a discuté avec Donald Trump. Les deux hommes veulent s'assurer que l'Iran ne se dote pas de l'arme nucléaire. Comme une trêve familiale pour respecter les derniers jours ou les dernières heures de vie de Vincent Lambert. Alors que les médecins ont arrêté les traitements depuis une semaine, les parents ont annoncé hier qu'ils ne déposeront plus de recours et qu'ils se résignent à la mort désormais inéluctable de leur fils. La plupart des membres de cette famille se sont déchirés pendant de longues années autour de cette tragédie intime. Mais pour l'un des auteurs de la loi relative à la fin de vie, Alain Claes, ce cas ne remet pas en cause l'esprit de la loi.
Je ne pense pas que la loi puisse être remise en cause, car les deux droits nouveaux que la loi apporte, c'est d'une part les directives anticipées qui sont opposables, et d'autre part, un sujet extrêmement important, c'est la personne de confiance, qui peut être désignée par le patient, et cette personne de confiance a rang sur toute autre personne de la famille. Si ça avait été le cas, si une personne de confiance avait été désignée par Vincent Lambert, nous n'aurions pas vécu ce drame familial. J'ajoute quand même que toute loi peut être perceptible, peut être améliorée, mais sur le cas précis de Vincent Lambert, c'est l'absence de personnes de confiance qui crée ce drame familial. Toute fin de vie est un cas particulier. Le législateur ne doit pas avoir l'ambition de gérer une fin de vie. Le législateur a simplement comme fonction de fixer un cadre juridique pour que la fin de vie se passe dans les meilleures conditions et de façon la plus apaisée possible, s'il n'y a pas été le cas aujourd'hui. Et dans la dernière loi que nous avons fait voter avec Jean Zanetti, on voulait voter ces nouveaux droits justement pour permettre cet apaisement et permettre cette dignité des derniers moments de la vie.
Alain Claes, co-auteur de la loi sur la fin de vie, Claes Leonetti, il répondait à Florence Turm. C'est le rendez-vous politique du jour pour les municipales à Paris. La majorité doit départager ses candidats pour briguer la mairie. La Commission nationale d'investiture de La République En Marche se réunit cet après-midi pour auditionner les 3 hommes en lice, Cédric Villani, Hugues Rançon et Benjamin Griveaux. Mais en réalité, c'est plutôt un duel qui se profile entre l'ex-porte-parole du gouvernement et le mathématicien Cédric Villani. Stéphane Robert.
Jusqu'ici, Benjamin Griveaux faisait figure de favori pour décrocher l'investiture En Marche à Paris. Un sondage BVA le donne en tête le 20 juin dernier, devant Anne Hidalgo à 25% d'intention de vote, au coude à coude avec Cédric Villani, lui aussi à 25%. Seulement, Benjamin Griveaux peut se prévaloir de son statut d'ancien ministre, de marcheur de la première heure depuis 2016 aux côtés d'Emmanuel Macron, et bénéficiant d'un taux de notoriété plus important. Il pense, à ce moment-là, avoir suffisamment d'avance. Mais c'est sans compter la détermination et l'énergie du député mathématicien Cédric Villani, qui la semaine dernière annonce le ralliement de l'ancien secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, jusqu'ici lui aussi candidat à l'investiture. Dans la foulée, Villani organise un meeting dans un théâtre parisien, réunissant plusieurs centaines de personnes, et il obtient le ralliement d'une autre rivale, Anne Le Breton, donnant le sentiment d'être un candidat plus rassembleur que Benjamin Griveaux. Du coup, Griveaux décide lui aussi de montrer ses muscles. Il organise dimanche dernier un pique-nique dans le 12e arrondissement, fait alors valoir le soutien de 34 élus parisiens et un ralliement, lui aussi, d'un autre candidat à l'investiture, Antonio Duarte. Alors, quel sera le résultat de ce concours à celui qui affiche le plus de soutien et de ralliement? Réponse a priori dans les jours qui viennent, après les auditions prévues cet après-midi par la commission d'investiture. Commission qui, au-delà de celui qui est le plus rassembleur ou qui a le meilleur projet, devra surtout déterminer lequel est le plus à même de battre la maire sortante, Anne Hidalgo.
Stéphane Robert. Et Hugues Rançon sera le premier cet après-midi à passer son oral avant Benjamin Griveaux et Cédric Villani. Réponse attendue normalement demain soir. C'est ce matin qu'est attendue la décision dans l'affaire Bernard Tapie. Décision du tribunal correctionnel de Paris à l'issue du procès pour escroquerie et détournement de fonds publics. Et les juges doivent dire si l'homme d'affaires a truqué l'arbitrage qui lui a octroyé 403 millions d'euros en 2008 pour solder son vieux litige avec le Crédit Lyonnais dans l'affaire de la revente d'Adidas. Un jeune ostréiculteur de 18 ans est mort samedi dernier en baie de Morlaix dans le Finistère. Il aurait succombé à une intoxication due à un gaz toxique. Reste à savoir s'il y a un lien avec les algues vertes en décomposition qui prolifèrent dans le secteur. Le parquet de Brest a décidé d'autopsier le corps du jeune homme. C'est ce que réclamaient les associations environnementales. Véronique Rebérotte.
Le jeune ostréiculteur se trouvait dans un parc à huîtres au moment de son décès. Il a succombé à 18 ans à un arrêt cardiaque. Ce sont ses collègues qui ont donné l'alerte. Autour du site, les associations environnementales constatent, je cite, « une poussée anormale d'algues vertes ». Dans leur courrier envoyé au procureur de la République de Brest, les associations qui se sont rendues sur place, intriguées par cette mort brutale, décrivent un vaste espace recouvert par une nappe continue d'algues vertes qui rend d'ailleurs leur marche difficile. Des relevés montrent la présence d'un taux élevé d'hydrogène sulfuré, le H2S, ce gaz toxique libéré par les algues vertes en décomposition, un gaz potentiellement mortel. Le H2S est soupçonné d'être depuis plusieurs années responsable de la mort de personnes ou d'animaux victimes de ces émanations, sans que le lien soit clairement établi en l'absence de prise de sang ou à cause d'autopsie inexistante ou trop tardive. Le procureur de la République de Brest, Jean-Philippe Récapé, accède donc à la demande des associations environnementales. Le corps de la victime a été conduit à l'hôpital où des examens seront faits pour rechercher les signes cliniques d'une éventuelle intoxication. Les algues vertes envahissent depuis plusieurs années une partie des côtes bretonnes en période estivale. Les échouages sont particulièrement importants cette année. Plusieurs plages bretonnes ont déjà été interdites d'accès.
Un coup de théâtre dans la nuit venue de Hong Kong. Les autorités semblent annoncer la fin d'un projet de loi particulièrement contesté dans la rue depuis des semaines. Celui qui prévoyait la possibilité d'extradition vers la Chine. Florence de Changy.
Le projet de loi est mort, a déclaré à la presse Carilla, mardi à 10h du matin, avant de rejoindre sa réunion hebdomadaire du Conseil exécutif, la plus haute instance du gouvernement. Carilla m'a reconnu que la gestion de la crise par son gouvernement avait été un échec total. Elle a estimé que la raison de cet échec était que son gouvernement n'avait pas fait du bon travail. Cette petite concession sémantique a comme attendu manqué de satisfaire les opposants à ce projet de loi qui demande son abandon ou son retrait total. Deux heures après la déclaration de Carrie Lam, le Front civil des droits de l'homme, organisateur des plus grandes marches de ces dernières semaines, ont fait remarquer que le mot « mort » n'existait pas dans le langage juridique, demandant au gouvernement de suivre le règlement. Ils ont rappelé leurs cinq revendications qui restent les mêmes, notamment une commission d'enquête indépendante dans les violences policières du 12 juin et la démission de la chef de l'exécutif.
Florence de Changy, correspondante de France Culture à Hong Kong. Un appel entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Hier soir, les présidents français et américains ont échangé sur les efforts en cours pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. L'Élysée, pour sa part, envoie son conseiller diplomatique à Téhéran dès aujourd'hui, car l'Iran brise un deuxième engagement de l'accord de 2015. Il enrichit de l'uranium au-delà du seuil autorisé. Christian Chéneau.
Le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron est attendu de pied ferme à Téhéran. La décision des Iraniens de reprendre l'enrichissement d'uranium à des seuils prohibés montre qu'ils sont capables de passer des menaces aux actes sans pour autant aller jusqu'à sortir de l'accord de Vienne. À l'Élysée, on fait remarquer que ces mesures sont très calibrées, autrement dit que Téhéran ne ferme pas forcément la porte à des négociations comme nous l'a confié en privé un diplomate iranien. Emmanuel Bonn, le sherpa du président, arrive avec pour mission de poser les fils d'une désescalade. Dans leur face-à-face avec l'Amérique de Trump, les Iraniens ont aussi besoin d'intermédiaires pour briser leur isolement diplomatique. Mais ils ont déjà prévenu, ils ne se contenteront pas de promesses. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères l'a répété avant la venue d'Emmanuel Bonn. Des gestes doivent être faits immédiatement avant le 15 juillet, comme l'a indiqué le président Macron. L'Iran attend notamment la mise en place de crédits dans le cadre d'INSTEX, le mécanisme commercial avec l'Europe, pour contourner l'embargo américain.
Christian Chesneau. Le Vatican accepte de lever l'immunité de son représentant en France, le nonce apostolique Luigi Ventura, accusé d'agression sexuelle par plusieurs hommes. Il a été entendu par la police à sa demande, mais l'enquête ne pouvait pas avancer tant qu'il avait cette immunité diplomatique. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, est en Sicile aujourd'hui pour célébrer sa promesse tenue, celle de fermer le centre d'accueil de demandeurs d'asile de Mineo, le plus grand d'Europe. Le reportage sur place de notre envoyé spécial Mathilde Imberti.
Il a accueilli jusqu'à plus de 4000 demandeurs d'asile en 2014 au plus fort. Le centre de Mineo est aujourd'hui un no man's land. Ces petits pavillons couleur ocre ou brique, posés incongruement au milieu des collines surchauffées de Sicile, sont vides. La dernière phase d'évacuation, débutée en décembre, s'est achevée juste à temps pour la visite de Matteo Salvini. Le sort des demandeurs d'asile ne s'est pas amélioré pour autant, observe Silvia Di Meo, association Borderline en Sicile.
Le CARA de Mineo était un problème. Le fermer de cette manière, c'est aussi un problème. La solution qu'ils ont trouvée, c'est soit laisser les migrants se débrouiller, soit les transférer dans d'autres centres d'accueil qui sont encore pires. On reçoit des photos, des vidéos, des signalements qui nous le prouvent.
L'église locale a essayé de réparer les pots cassés. Le diocèse de Caltagirone héberge 25 anciens résidents du centre de Mineo qui restaient sans solution. L'évêque Calogero Pieri s'agace de la politique à court terme du gouvernement.
On nous parle de sécurité, mais dans la mesure où ils étaient des milliers dans le centre et où seulement une partie a été transférée, les autres se sont évanouis dans la nature. Si la sécurité, c'est ne plus savoir où sont les gens, il est temps de penser à un vrai projet.
Matteo Salvini sera accueilli par une manifestation à Mineo ce midi. Il vient fanfaronner, déplore exaspérer les organisateurs de ce cortège.
Mathilde Imberti, envoyée spéciale de France Culture en Sicile. C'était il y a 5 ans, jour pour jour ou presque, la guerre civile au Yémen débutait. En 2015, elle prend une ampleur internationale avec l'intervention de la coalition menée par l'Arabie Saoudite contre les rebelles houthis. À Hodeïda, malgré un cessez-le-feu et une récente accalmie, la ville, point d'entrée principal de l'aide humanitaire, reste dans une situation très incertaine. Capucine Jaffé.
Hodeïda est toujours en état de siège, son port est partiellement bloqué et ce blocage gêne le travail des humanitaires sur place. Thierry Benlassen est directeur des opérations de solidarité internationale.
Il y a de l'aide humanitaire qui arrive à passer, mais au compte-gouttes. Ça demande des autorisations de la part des autorités et malheureusement, on a une grosse majorité de l'aide humanitaire, notamment les rations alimentaires, qui ne passent pas ou alors qui sont retardées. Donc, on est sur la situation humanitaire la plus préoccupante et la plus extrême qu'on rencontre en ce moment sur le globe.
Mais ce qui inquiète aussi les humanitaires, c'est la reprise des combats. Hassan Boussénine est chef de mission pour Médecins sans frontières.
La tendance générale au Yémen et dans la région est un durcissement entre les parties et d'une escalade. Et donc, la coalition pourrait tenter de faire une offensive sur le port de Hodeïda et d'enlever tous les accès à la mer. Cela ne pourrait se faire qu'au terme de combats longs, fastidieux et qui auront un impact terrible sur les populations civiles.
Selon l'ONU, 14 millions de personnes au Yémen sont menacées par la famine.
Capucine Jaffé. Un chef-d'œuvre de Rembrandt passé au rayon X, la Ronde de nuit achevée en 1642. Une toile de 3,80 m de haut sur 4,50 m de large. L'objectif final est de déterminer quelles opérations de restauration pourraient être nécessaires 375 ans après les premiers coups de pinceau de Rembrandt. Mais pour ne pas en priver les visiteurs, le Rijksmuseum d'Amsterdam a décidé de laisser les chercheurs travailler sous les yeux du public. Pierre Benazé.
Enfermés dans une cage vitrée de 7 mètres sur 7, les chercheurs du Rijksmuseum s'activent autour d'un imposant scanner qui se déplace devant la ronde de nuit. C'est la première phase de la recherche, la fluorescence des rayons X. Les visiteurs doivent parfois se hausser sur la pointe des pieds pour voir la célèbre toile de Rembrandt, comme Elsa, une Parisienne pour qui c'est la première visite.
Ça donne un côté très contemporain à l'œuvre. C'est intéressant de voir tout ce qui se passe autour. C'est dans une cage, on dirait presque une installation d'art contemporain. On pourrait se dire qu'il y a une performance là. Ça ne me gâche pas la visite et la découverte de l'œuvre.
Une vingtaine de scientifiques vont se succéder pour inspecter la ronde de nuit millimètre par millimètre. Comme Victor Gonzalez, docteur en chimie, il va se pencher avec passion sur les pigments utilisés par Rembrandt il y a près de 400 ans.
L'enjeu ici, c'est de retrouver éventuellement la couleur originale des matres de Rembrandt. Est-ce qu'ils ont changé de couleur? Est-ce qu'ils sont devenus plus transparents? Mais peut-être qu'on n'est pas à l'abri d'autres surprises. Est-ce qu'on va découvrir d'autres matériaux qui sont uniques à la ronde de nuit? On sait que c'est une commande qui a été très importante pour Rembrandt. Peut-être qu'il a expérimenté en quelque sorte et qu'on va trouver des nouveaux indices pour des nouvelles couleurs de Rembrandt.
Viendront ensuite tomographie, diffraction, UV, infrarouge ou encore imagerie hyperspectrale. Le musée espère pouvoir mener ensuite une restauration qui fera ressembler la ronde de nuit à son apparence de 1642.
La ronde de nuit est donc toujours à voir au Rijksmuseum d'Amsterdam. La météo de ce mardi, des orages sur les Pyrénées, l'Occitanie et la Corse. Il va pleuvoir également sur le massif central et le sud de la région Rhône-Alpes. Temps calme et sec partout ailleurs avec un soleil généreux au nord de la Seine. Les températures ce matin entre 8 et 16 degrés au nord et de 14 à 20 degrés au sud et jusqu'à 24 sur les plages azuréennes.